Phase finale du processus de révisitation des contrats miniers déclenché depuis le 11 juin 2007 par le gouvernement congolais après le dépôt au gouvernement des conclusions de la commission chargée d'examiner les contrats. L'heure est à la renégociation et la résiliation des accords miniers suivant les observations et recommandations retenues. Cependant, plus d'une personne souhaite que cette renégociation des contrats entre les entreprises publiques et leurs partenaires tienne compte du bien-être social de la population congolaise. Nous en parlons avec Jody Kachama et nous allons recevoir dans quelques instants Gabi Matiafou, directeur des cabinets adjoints du ministre des Mines. Jody Kachama, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Où en est-on exactement avec la révisitation des contrats miniers?
Oui, vous savez, la commission de révisitation des contrats miniers instituée depuis le 11 juin 2007 avait déjà remis son rapport au gouvernement central après avoir passé au peigne fin chaque contrat signé entre les entreprises publiques avec des partenaires privés. Des notifications reprenant les reproches et exigences de l'État ont été faites à chaque partenariat.
Voilà, alors après que le gouvernement ait notifié à chaque partenariat,
oui.
Quelle est l'étape suivante?
Bon, alors vous savez, un panel a été mis sur pied après le dépôt du rapport de la commission gouvernement. Il est composé des ministres d'État après le président de la République et après le premier ministre, le ministre des Finances, Budget, Portefeuille, le ministre vice-ministre des Mines ainsi que le directeur du cabinet du président de la République sous la présidence du ministre d'État à l'Agriculture. Ce panel supervise la renégociation éventuellement la résiliation des contrats miniers suivant les observations et recommandations retenues. Écoutons à ce sujet M. Alexis Mikandji, directeur de cabinet du ministre des Mines.
La commission a cessé son travail dès lors qu'il a rendu ses conclusions au gouvernement. Et depuis, je crois qu'il y a eu une conférence de presse que le ministre et les vice-ministres de Mines ont eu à tenir. Et au cours de cette conférence de presse, ils avaient bien précisé que le gouvernement avait mis en place un panel qui devait désormais s'occuper de la question. Le panel du gouvernement a demandé aux entreprises publiques, aux entreprises minières, de rediscuter les contrats avec leurs partenaires. Voilà, donc c'est ça qui va être fait. Le panel, en fait, c'est le panel qui gère actuellement le processus. Et le panel a retourné le dossier aux entreprises afin qu'elles puissent rediscuter avec leurs partenaires. Après discussion, renégociation entre entreprises et leurs partenaires, le dossier va rentrer au gouvernement pour sanction.
Voilà, le dossier va retourner au gouvernement pour sanction. Si je comprends bien, on est à l'étape de la renégociation des contrats entre les entreprises et leurs partenaires.
Oui, et c'est cela. Les entreprises publiques, je cite Kisenge Manganèse, Gécamines, Miba, Okimo, Sakima et Sodimico, sont actuellement en train de revoir et renégocier les contrats qu'ils ont signés avec des partenaires. Et cela en tenant compte des termes de référence formulés par le panel.
Il y a des contrats qui seront peut-être résiliés.
Bon, il faut signaler que la commission de révisitation avait d'abord procédé à la classification des contrats en trois catégories. À la catégorie A, comprenant les contrats viables, les plus productifs et en règle de paiement des taxes et redevances envers les trésors publics. Ensuite, nous avons la catégorie B, où on retrouve les contrats moins viables, donc ce sont les contrats à renégocier. Enfin, la catégorie C, qui regroupe les contrats non viables ou contrats résiliés. C'est possible qu'à l'issue de ces processus, qu'il y ait des contrats qui soient carrément annulés.
Quand est-ce que tout cela va prendre fin?
Nous avons joint au téléphone le directeur de cabinet du ministre des Mines, qui se trouve actuellement à Lubumbashi. D'après lui, il faut compter probablement jusqu'au 9 octobre prochain. Les entreprises vont remettre au panel les contrats revus et annulés. Alors, c'est à ce moment-là que le panel va procéder à la publication.
Alors comment la population a-t-elle réagi par rapport à l'avancement de ce processus?
Oui, et nous avons accordé la parole à M. Joe Sandoku, membre du bureau des coordinations de la société civile du Katanga. Il déplore le fait que la société civile n'a pas été impliquée dans ce processus. On l'écoute.
Nous tenons à ce que la population congolaise puisse bénéficier de l'ensemble de toutes ces richesses sur lesquelles elle marche tous les jours et qui jusqu'à présent n'a jamais profité à eux. Donc la seule demande que nous allons à suggérer actuellement, c'est que tous ces contrats, après qu'on les ait révisités, que cela profite à la population congolaise en général et katangaise en particulier. Il aurait fallu que la société civile puisse être partie prenante dans la commission qui devrait négocier tous ces contrats. Lorsque vous regardez par exemple l'ensemble de toutes les dispositions qui sont incluses dans les termes de référence, vous vous rendez compte que l'État a mis l'accent plus sur les taxes, sur les impositions, tout ce que les entreprises doivent payer à l'État. Mais la partie sensible de la communauté, du développement communautaire, n'apparaît pas beaucoup dans l'ensemble de tous ces termes de référence. Ce qui fait que nous sentons justement qu'il y a eu absence des représentants de la population locale et des communautés de base.
Voilà, on a appris, je dis, que ces contrats profitent pour la plupart à un groupe de gens.
Oui, c'est ce qu'on a entendu également, mais d'après M. Sandoku a affirmé à renchérir en disant qu'au Katanga, par exemple, on ne ressent pas l'impact de ce mining sur la vie, le bien-être de la population. Au contraire, il occasionne des conséquences fâcheuses même sur l'environnement. On peut l'écouter une fois de plus.
Ce sont des contrats qui ont été signés à la qui-va-vite et qui n'avaient pas permis à ce que la population puisse en bénéficier. Lorsque vous descendez sur le terrain, le premier constat que vous allez faire, c'est que vous voyez des véhicules qui circulent tous les jours, qui rentrent et qui sortent, transportant des minerais. Et lorsque vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont en train de crever tous les jours. Il y a des populations qui sont prises. Les camions qui transportent ces minerais laissent de la poussière minérale sur le chemin. Ça pose tout ça des problèmes d'impact. Et lorsque vous allez parfois voir dans certaines entreprises, il y a des travailleurs qui ne sont pas sécurisés, qui travaillent qui pieds nus, parfois sans masque, et qui se présentent parfois dans des conditions qui sont très risquantes pour leur survie et pour leur physique à plus tard. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'était un domaine qui était exploité de façon plus ou moins sauvage, qui nécessite, avec la renégociation, qu'on puisse y mettre de l'ordre. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a même une entreprise qui avait mis un tapis roulant qui transportait les minerais du Congo pour aller les stocker en Zambie, et cela au vu aussi de tout le monde, sans qu'aucun service de l'État ne puisse contrôler quelle est la quantité qui sortait, quelle est la matière qu'on était en train d'exporter, rien du tout. Donc nous avons constaté comme ça qu'on exploitait des minerais de façon sauvage, et apparemment, puisque les autorités ne semblent pas être émues par la situation, nous avions pensé qu'ils avaient des intérêts là-dedans.
Alors, on va terminer avec vous, jeudi, Tachama.
Oui.
Vous recueillez les réactions d'une société minière par rapport à cette dernière phase de résiliation des contrats miniers.
Oui, et nous avons accordé la parole à M. Gérard Tamboué, qui est l'administrateur de la société minière du Katanga, son état en sigle. On peut écouter son point de vue par rapport à la résiliation des contrats miniers.
Ça prend les allures d'une expropriation. Alors, une expropriation qui ne semble pas respecter les procédures. La plupart des contrats ont été négociés, d'abord avec la GECAMI, c'est-à-dire le comité de gestion de la GECAMI. Ensuite, ils ont été avalisés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration a transmis ce contrat au niveau de la tutelle, c'est-à-dire du ministère de l'île. Il y a même des contrats les plus grands qui ont été débattus d'abord dans la commission économico-financière et ensuite approuvés par le conseil des ministres. Vous comprenez que après avoir franchi toutes ces étapes, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui justifierait un changement radical et en profondeur de ce contrat. Nous pensons que si l'État veut augmenter la part des gains qu'il attend de 2000, il y a d'autres schémas. Il y a aussi la législation qu'il faut absolument modifier, ce qui aujourd'hui ne semble pas être le cas. Ce qui nous inquiète le plus, vous savez, les finances dans l'ensemble ne viennent pas de notre pays, ne viennent même pas de l'Afrique, ils viennent de l'extérieur. Et il existe des pratiques qui sont les mêmes partout, par exemple les pratiques minières. Alors, pour nous, la crainte, c'est de suivre la conséquence de restrictions financières à partir de l'extérieur, parce que l'extérieur trouve que le risque est augmenté, parce que si on signe un contrat un jour et puis le jour suivant on l'annule ou on le remet en cause, il n'est pas certain que ce qui est fait aujourd'hui va persister demain. Demain, il y a encore risque qu'on soulève un nouveau problème et qu'on nous dise que non, ce n'est plus ceci, c'est cela. C'est ça la crainte.
C'est ça la crainte. Je crois que chacun tire les bras de son côté, parce que la dernière fois, nous avons vu également une ONG monter au créneau pour condamner avec la dernière énergie cette attitude du gouvernement de revenir chaque fois sur la réalisation des contrats. Je dis qu'à ce moment, on s'arrête là avec vous et à la prochaine.
Voilà, merci, à la prochaine.
Le sourire du jour, radio au quotidien.
Nous avons dans ce studio Gaby Machafou, directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines. Monsieur Gaby, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à nouveau dans ce studio. On va vous parler de cette question sur le processus de révisitation des contrats miniers. D'aucuns pensent que c'est quand même un long processus. Hein. Débuté au mois de juin de l'année dernière, et après une année, presque trois mois, rien n'est encore fait.
C'est vrai, certains ont peut-être raison de dire que c'est un long processus, mais rassurez-vous, 61 contrats, les réviser, renégocier, je crois qu'un an c'est peut-être moins. Si vous comparez notre processus, par exemple, à celui qui s'est passé au Libéria, où pour deux ou trois contrats seulement, ça a pris deux ou trois ans.
Ben oui, mais le problème c'est que, comme nous l'avons suivi, le dernier intervenant, Gérard Samoué, l'administrateur de son état, qui a insisté pour dire effectivement c'est qu'on vit aujourd'hui au Congo, c'est un cas d'expropriation.
Bon, moi j'aimerais d'abord que nous puissions remettre la réflexion des contrats dans son contexte. Je sais que dans notre pays, nous avons très souvent une mémoire très courte. Mais j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que la révisitation des contrats est d'abord une des résolutions du dialogue intercongolais de Sainte Cité. On va bien qu'on se mette d'accord là-dessus. Et que donc le gouvernement actuel ne fait qu'appliquer une de ces résolutions-là, et vous souviendra que lorsque le Premier ministre est allé requérir l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée nationale, il avait inscrit la révisitation des contrats dans ce cadre-là. Par la suite, le gouvernement a mis sur pied une commission de révisitation des contrats. Cette commission a siégé pendant quelques mois, elle a remis au gouvernement son rapport, et les parties ont été notifiées les conclusions du rapport. Ce rapport a été publié par la suite, et un panel des ministres s'en est occupé. Et ce panel des ministres a adopté les termes de référence qui conduisent aujourd'hui aux renégociations des contrats qui devraient être négociés, ou alors à la résiliation de ceux qui devraient l'être, par rapport aux recommandations de la commission dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc à ce niveau-là, déjà, je crois, il faut bien qu'on puisse savoir que nous avons d'un côté les contrats qui devraient être renégociés, parce que soit dans leur formation, soit dans leur exécution, rien qu'en se fiant aux conditions contractuelles, ces contrats posent problème, soit alors ceux qui devaient faire l'objet d'une résiliation. Généralement, pour la même raison.
Et certains observateurs évoquent le non-respect du principe de continuité de l'État, parce que vous l'avez dit, c'est pratiquement avec les recommandations de Sainte City que nous en sommes arrivés là. Nous avons vu suivi Gérard Tamoué qui a insisté pour dire il y a quand même certains dossiers qui ont suivi le cours normal, les circuits normaux. Il y a même des contrats qui ont été négociés par la commission économico-financière. Ben alors, aujourd'hui, revenir sur le même dossier qui a été peut-être traité avec rigueur, vous revenez pour révisiter, ça ne peut pas être sérieux pour un pays.
Certes, mais je crois que le sérieux d'un pays ne doit pas être examiné seulement d'un seul côté. Ça doit être aussi examiné du côté de ceux que nous attendons les investisseurs. Si vous vous arrangez aujourd'hui avec moi, pour que moi je puisse vous accorder certaines facilités, vous n'allez pas interdire par exemple à la justice de faire son travail. Vous n'allez pas dire que parce que moi aujourd'hui ministre des Mines, président de la République, premier ministre, etc., je suis d'accord avec vous, que vous allez enlever au peuple congolais la souveraineté permanente sur ses ressources naturelles. Et ça, c'est un droit du peuple aussi, de voir clair dans tout ça.
C'est une question d'option.
Oui, mais c'est un problème de suivi également, parce que quand vous décidez, même dans le panel, s'il y a un suivi permanent, je crois que les choses devaient être vues dans la même... devaient être vues peut-être sous un même angle, et que les deux partenaires devaient chaque fois se parler pour dire, mais voilà, à tel endroit, les choses ne marchent pas bien, revenez dans l'ordre, au lieu de revisiter l'ensemble des contrats.
Bon, c'est peut-être le fait que l'opération soit globale, qu'elle soit faite au même moment qui paraît nouveau. Oui.
Je vous rappelle qu'il y avait un contrat avec un suivi.
Oui,
je crois qu'on aurait dû le faire d'une manière isolée et permanente.
Bon, il faut toujours commencer par quelque part. Je ne pense pas que parce qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne doit pas le faire. Ça, c'est d'un des deux. Il s'agit bien et bien de contrats. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a des contrats qui doivent être maintenus ou qui doivent être annulés, non pas parce qu'ils ont des tard originales qui sont définies ici, mais aussi parce que dans leur exécution, il y a problème. Or, vous savez que ces contrats qui sont résistés sont les contrats qui ont été conclus par des entreprises publiques. Et il y a une loi qui dit que les entreprises publiques sont, comment dirais-je, placées sous la tutelle de certains ministères. Et je crois que si on essaye d'interpréter tout ça, on trouvera que la tutelle, puisque cela dit que la tutelle se fait, s'exerce a priori, concomitamment et a posteriori. Et je ne pense pas qu'à cet égard, il y ait vraiment de grosses pierres achetées sur le gouvernement qui a assumer sa responsabilité.
Mais sur le plan juridique, on sait qu'un contrat a un caractère cybernétique,
oui.
C'est-à-dire à lui de départir.
Oui.
Aujourd'hui, on a comme l'impression que le gouvernement, c'est pas mal de dire, ben voilà, il a respecté les contrats, mais ce sont ses partenaires plutôt qui n'ont pas respecté le leur. Donc, on va jusqu'à évoquer des contrats léonais qui ont été signés, mais c'est vrai, certes, parce que le gouvernement a des obligations et aussi des devoirs à faire autour de ces contrats. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la faute est seulement attribuée aux partenaires?
En tout cas, le gouvernement ne l'a jamais dit. Et dans toute sa démarche, le gouvernement a toujours visé et ses propres entreprises et leurs partenaires. Ça, il faudrait bien qu'on puisse en être d'accord. Moi, j'aimerais plutôt d'ailleurs vous demander à savoir pourquoi il n'y a que les partenaires d'entreprises publiques qui se plaignent. Sans doute, vous allez prendre un chemin que j'estime le plus court, c'est de dire, bon, les entreprises ne se plaignent pas parce qu'elles sont sous la tutelle du gouvernement. Mais je vous rappelle qu'il s'agit, et vous venez de le dire vous-même, de contrats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'objectif initial des partenariats, c'est-à-dire la remise à flot des entreprises publiques, a été atteint? Je ne pense pas.
Mais peut-être que l'approche utilisée n'est plus par la banque, par le gouvernement.
On peut toujours discuter de l'approche.
Si nous prenons les cas, par exemple, oui. On va vous laisser le temps de parler. Si nous prenons les cas des entreprises publiques qui fonctionnent à la modiation ou à la joint venture,
oui.
Aujourd'hui, on peut dire que le résultat n'est pas assez escompté. Je cite les cas de l'Amiba, par exemple.
Est-ce que je peux dire que vous ne faites que m'appuyer en le disant?
Non,
l'Amiba a conclu justement des partenariats pour qu'elle puisse le profiter. Est-ce que c'est le cas?
Ce n'est pas le cas parce que vraiment, c'est comme si l'Amiba tourne en rond.
Malheureusement, l'Amiba n'est pas la seule. C'est toutes nos entreprises qui sont dans cette situation-là. Elles ont conclu des partenariats dans un premier but pour qu'elles se relèvent elles-mêmes. 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans pour certains, plus de 10 ans même depuis. Quelles sont les retombées réelles pour les entreprises, pour l'État et pour les populations?
Et vous, en tant qu'expert de mine, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Plein de choses, notamment celles qui ont été relevées dans le rapport de la commission de législation des contrats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des vices qui sont liés, dans certains cas, à la formation du contrat. Dans d'autres cas, c'est l'inexécution des obligations des parties. Quand je dis l'inexécution des obligations des parties, je ne dis pas que c'est seulement dans le chef des investisseurs. En tout cas, c'est parce que le gouvernement a dit qu'il y a des cas où ce sont des entreprises qui n'ont pas... respecter leurs engagements.
Et qu'est-ce qui garantit, quelles sont les garanties que vous nous donnez qu'après vous, il y aura plus de réalisation des contrats? Parce que dans bien des cas, chaque ministre arrive, amène sa propre philosophie et une autre réalité. Qu'est-ce qui prouve qu'effectivement, cette fois-ci, c'est la bonne?
Bon, garantie, je ne peux pas en donner personnellement parce que je dis, et je vous rappelle encore, nous sommes dans le domaine des contrats. Tant qu'un contrat dure, les obligations qui sont nées de ce contrat dans le chef de chacune des parties demeurent. Et donc aussi l'obligation d'exécuter ce contrat. Donc je pense pas qu'on puisse donner des garanties dans ce sens-là. Plutôt, ce que j'aimerais dire, c'est que plus nos entreprises publiques, plus nos partenaires s'attelleront à respecter leurs engagements, et d'ailleurs, avant même de prendre ces engagements, plus les parties s'attelleront à ne jamais oublier que les entreprises sont un bien de tous les Congolais, mieux ça vaudra pour toutes les parties.
Alors, je crois pour éclairer la lanterne des auditeurs, quel est le plus grand péché que vous impliquez peut-être à tous vos partenaires?
voilà, je reviens encore une fois pour vous dire nous ne visons pas les partenaires des entreprises publiques. Les contrats qui sont révisités, les conventions
minières. Je prends le cas, on va pouvoir les recruter de Somica. Oui. C'est quand même une société minière de Katanga.
Oui.
C'est une entreprise privée.
Oui.
Je crois que Sylvain va nous aider à revenir sur le son que nous avons écouté tout à l'heure. Si on peut revenir pour réécouter encore notre, disons, l'administrateur de la Somica.
Okay.
Mais voilà, alors donc nous allons réécouter Gérard Ntamboué, qui est l'administrateur de la Somica, qui est revenu d'ailleurs sur plusieurs aspects, notamment la législation qui doit être modifiée, les risques et la législation qui doit augmenter les risques, ça ne fait pas sérieux, on écoute ça.
Ça prend les allures d'une expropriation, alors une expropriation qui ne semble pas respecter les procédures. La plupart des contrats ont été négociés, d'abord avec la GECAMI, c'est-à-dire le comité de gestion de la GECAMI, ensuite ils ont été avalisés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration a transmis ce contrat au niveau de la tutelle, c'est-à-dire du ministère de l'île. Il y a même des contrats les plus grands qui ont été débattus d'abord dans la commission économico-financière et ensuite approuvés par le conseil des ministres. Vous comprenez que après avoir franchi toutes ces étapes, on ne peut pas comprendre aujourd'hui ce qui justifierait un changement radical et en profondeur de ce contrat. Nous pensons que si l'État veut augmenter la part des gains que l'attend de 2000, il y a d'autres schémas. Il y a aussi la législation qu'il faut absolument modifier, ce qui aujourd'hui ne semble pas être le cas. Ce qui nous inquiète le plus, vous savez, les finances dans l'ensemble ne viennent pas de notre pays, ne viennent même pas de l'Afrique, ils viennent de l'extérieur. Et il existe des pratiques qui sont les mêmes partout, par exemple les pratiques minières. Alors, pour nous, la crainte, c'est de subir la conséquence de restrictions financières à partir de l'extérieur, parce que l'extérieur trouve que le risque est augmenté, parce que si on signe un contrat un jour, et puis le jour suivant, on l'annule, ou on le remet en cause, il n'est pas certain que ce qui est fait aujourd'hui va persister demain. Demain, il y a encore risque qu'on soulève un nouveau problème et qu'on nous dise que non, ce n'est plus ceci, c'est cela. C'est ça la crainte.
Voilà, comment réagissez-vous, monsieur Gabi, des propos de Gérard Tamboué, administrateur à la Somica?
Bon, il a dit une chose, mais j'aimerais simplement dire que, encore une fois, il s'agit d'une option à faire, et pour le Congo, et pour ses partenaires. Est-ce parce que nous avons eu quelques
problèmes? La Somica est une entreprise publique, hein?
La Somica a aussi le partenariat, c'est pas pour rien, c'est pas de manière intéressée que ce cas intervient. C'est pas là pour parler des cas.
Oui.
En tant qu'entreprise, elle a ses propres activités, comme beaucoup d'autres, mais elle s'est aussi intéressée aux entreprises publiques. Donc, ce n'est pas de manière intéressée que Somica intervient. J'aimerais simplement dire que c'est une question d'option pour le Congo et ses partenaires. Est-ce parce que nous avons des problèmes de gouvernance que nous en avons encore, que nous devons accepter que tout ce qui a été fait reste dans l'État? Ça, c'est une question d'option. Pour le gouvernement, ce n'est pas le cas. Ça, c'est dans les deux. Je pense que la véritable sécurité juridique, c'est de pouvoir éviter de faire au Congo ce qu'on ne peut pas faire dans son propre pays. Je pense. Nous avons en général les mêmes règles de droit, les mêmes besoins, le même souci. Et si dans son propre pays, on ne peut pas faire un contrat à Léonard, pourquoi doit-on trouver normal qu'on le fasse au Congo? Je pense que si on fait bien son travail, on cherche des contrats équilibrés avec le Congo, on peut se dire, quel que soit le régime qui viendra, quel que soit le gouvernement qui viendra, on peut se défendre. Et remarquez bien, ceux qui s'agitent le plus souvent depuis que le processus de législation des contrats a commencé, ce sont ceux qui ont des choses à se reprocher. Et c'est pas tout le monde.
Oui, monsieur Gabi, parlons à présent des principes et critères des litiers dans les secteurs miniers.
Oui.
Aujourd'hui, on se rend compte que là également, les choses ne sont pas faites comme vous l'entendez au niveau du ministère. Parce qu'il a été dit dans une note circulaire du ministre,
oui.
Je le rappelle même, c'est une note circulaire 006
oui.
De mai, disons du mois de mai, donc le 20 mai dernier, demandant aux entreprises minières de déclarer ce qu'ils payent à l'État. Alors, aujourd'hui, rien n'est fait et on ne voit rien de visible.
Mais ça, c'est lié à la nature de l'ITIE. C'est un processus déclaratif. Il n'y a aucune contrainte. C'est ça, l'ITIE. Vous déclarez vous-même ce que vous devez payer. Il n'y a aucune mesure de contrainte dans le processus de l'ITIE. Sauf qu'il y a des considérations morales, des sanctions morales qui découlent du fait que quand vous ne déclarez pas, vous voyez tout de suite que tout le monde va vous regarder, va vous indexer et tout ça.
Alors, merci.
Mais nous, nous avons fait ce, qui est, ce que nous avons cru être notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on prenne les dispositions relatives à l'ITIE, qu'on les mette à la disposition des opérateurs miniers. Mais malheureusement, si on, on reste dans le strict respect du cadre de l'ITIE, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, leur mettre en place des mécanismes, un dispositif qui leur permette de faciliter, plutôt de déclarer leur, tout ce qu'ils paient à l'État.
Oui, ben, parlons également des droits, taxes et rédévances que payent toutes ces sociétés minières. Mm-hmm. Parce que là, par rapport toujours à cette note, cette qu'elle on voit, il y a plus de, d'une dizaine de taxes et droits que doivent payer ces sociétés. N'est-ce pas là à asphyxier davantage ces sociétés à ceux d'enseignes qui vont dire, voilà, aujourd'hui on nous reproche de ne pas respecter les contrats, mais la part qui était réservée aussi au gouvernement, c'est par le passé.
Non, il y a deux choses qu'il faut retenir à ce propos. Il y a d'abord le fait que le Code minier a mis en place un système fiscal, parafiscal, douanier, exclusif et unique pour le secteur minier. À ce propos, je crois que je n'ai pas encore entendu un opérateur économique se plaindre. Et tout ce qui est repris là-dedans relève du Code minier. Avec l'ITIE, et ça c'est le deuxième point, la différence c'est quoi? C'est qu'il faut maintenant publier ce que vous payez à l'État, afin, que, afin de permettre à d'autres services de l'État de faire des recoupements. Ça, c'est sous cet angle-là que nous, nous avons vu ce problème. Ce n'est pas nouveau. Les taxes qui sont prises dans cette note circulaire sont dans le code minier, approuvées par le partenaire, parce que le code minier, comme vous le savez, c'est le fruit d'un consensus entre le pouvoir public, les entreprises et les institutions internationales qui nous accompagnent dans notre développement.
Alors, parlons maintenant de cette fameuse révisitation des contrats, comme on l'a dit en début. C'est un long processus. Où en est-on?
Je crois que pour le moment, nous sommes au dernier virage hein, de cette législation des contrats, dans la phase que nous appelons renégociation des contrats. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait d'abord une commission qui a siégé, cette commission qui a fait son rapport, il y a eu un panel des ministres qui a adopté le thème de référence et qui a responsabilisé l'entreprise publique pour pouvoir procéder à cette dernière étape. Et c'est là que nous sommes, et il y a des acteurs du gouvernement qui assistent les entreprises publiques et leurs partenaires dans cet exercice-là. Moi-même, je viens de l'intérieur où j'ai participé à ce genre de décision. Je crois que c'est vraiment exaltant et j'ai plein espoir que si tout le monde va dans le même sens, nous pourrons dire que c'était pas un exercice perdu, c'était pas du temps perdu et c'est pour le bonheur de notre pays.
On avance la date du 9 octobre, la fin de résiliation du contrat.
Bon, pour moi, je ne suis pas vraiment très sûr de pouvoir donner la date exacte de la fin des renégociations parce que, dans un premier temps, nous avions donné la date du 25 septembre pour cette fin. Mais comme vous le savez, il y a eu certains impondérables, il y a des entreprises qui ont demandé à ce qu'on leur accorde des délais pour que leurs partenaires puissent arriver, pour qu'ils aient le temps de se concerter avec leurs avocats et ainsi de suite, alors que comme vous le savez, elles ont été notifiées toutes depuis le 11 février 2008. Bon, et si le gouvernement n'avait pas accepté cela, on allait encore le taxer de ne pas coopérer, et ainsi de suite.
Alors, en attendant les conclusions finales qui sortiront peut-être de ce processus de révisitation, comment se comportent les entreprises concernées sur le terrain?
Dans la plupart des cas, les entreprises coopèrent avec le gouvernement. La réalisation n'aurait pas eu lieu, on n'aurait pas fait tout ce passé, les entreprises n'avaient pas accepté de jouer ce jeu. Et moi, je crois personnellement, c'est pour ça que moi, je suis parfois étonné d'apprendre que on dit que le gouvernement ne tire que sur les entreprises, les passés des entreprises publiques, et ainsi de suite. Et c'est pas ce que moi, je dis. Personnellement, je ne peux pas dire que je connais des entreprises publiques qui se sont opposées à la législation des contrats. J'aimerais vous rappeler que j'ai été rapporteur de cette commission-là.
Mais disons que cette législation des contrats a fait quand même des mécontents.
Des mécontents
de la part des ONG, de la part même des opérateurs miniers. Mais comment vous avez pu gérer tous ces litiges?
Vous connaissez-vous une œuvre humaine qui n'a fait que des désheureux, surtout en cette matière où il y a des gros intérêts en jeu?
Des gros intérêts?
Absolument.
Ce n'est pas un jeu d'intérêt aussi, de la part de ceux qui gèrent ces dossiers?
Un jeu d'intérêt, je ne pense pas. Je rappelle qu'il y a 61 contrats en législation et c'est plusieurs entreprises publiques et plusieurs partenaires venus de quatre coins du monde.
Alors, parce que vous avez fait partie de tous ces négociateurs, est-ce que vous pouvez, c'était pas un secret, nous dire sur les 60 dossiers, combien sont à résilier dans les jours à venir?
Non, dans les jours à venir, je ne peux pas le dire parce que nous sommes précisément en renégociation.
Vous avez déjà une idée, vous avez déjà une squelette, disant que voilà, on peut arriver là comme conclusion.
Non, est-ce qu'on peut reprendre la petite la mémoire par rapport au rapport de la réalisation des contrats, c'est que sur les 61 contrats que nous avons eus, il n'y a aucun qui n'a été classé dans la catégorie que nous avons appelée catégorie A, c'est-à-dire les contrats à maintenir en état.
Viable,
je ne sais pas, mais moi, c'est les contrats à maintenir en état qui ne devaient subir aucune modification, zéro.
Il n'y a aucun.
Mais dans la catégorie B, nous en avons 40. Et les 21 autres ont des contrats à résilier sous certaines conditions. Et il y a des entreprises qui ont avancé leurs arguments et j'estime qu'il était du devoir du gouvernement de pouvoir les écouter, de pouvoir recevoir leurs propositions pour, en quelque sorte, déplacer leurs entreprises de la catégorie B, C vers la catégorie A qui n'existe pas à ce jour. C'est l'exercice auquel on se livre aujourd'hui et il y a des perches qui ont été tendues à ces entreprises par le gouvernement, notamment le fait qu'il faille tenir compte du fait que même si les contrats n'ont pas été n'ont pas rempli toutes les conditions de satisfaction, mais si un opérateur économique a pu parce qu'à une étude de faisabilité, c'est-à-dire dans les conditions difficiles où nous étions, les gens ont pris le risque de mettre de l'argent au Congo, de forer, d'engager du personnel, etc. Je ne pense pas qu'il aurait été sage de la part du gouvernement d'ignorer cette
maladie. Il ne faut jamais oublier cet aspect. Il y a des entreprises qui sont encore en phase d'exploration.
Oui.
Ça, je crois qu'au niveau du contrat, si jamais ils sont trouvés, dans la catégorie des entreprises dont les contrats seront résiliés, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est injuste?
Non,
l'exploration va même jusqu'à 5 ans.
Mais tout dépend de ce qui a été dit dans le contrat. Si les partenaires sont engagés à faire une exploitation en 5 ans, pourquoi doit-on leur reprocher de ne pas le faire 3 ans aussitôt après la signature du contrat? C'est qu'ils sont dans leur temps, dans le mal de leur délai. Je ne pense pas qu'il faille, lorsque quelqu'un se trouve encore dans son jardin, l'empêcher de pouvoir ce qu'il veut faire. Si le contrat a prévu une durée d'exploration de 2 ans ou de 3 ans, c'est tant mieux. Mais je vous rappelle que, encore une fois, il s'agit de contrats et donc d'obligations prises par les uns et les autres. Et les uns à l'égard des autres.
Vous avez parlé des contrats à résilier, sous réserve de négociations également. À quelles conditions peut-on renégocier ces genres de contrats?
J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement n'a pas suivi totalement les recommandations de la commission de législation. Le panel des ministres a siégé et a estimé qu'il fallait, par rapport à ce cas-là, tenir compte, par exemple, du fait qu'il y a des entreprises qui sont dans la catégorie C et qui ont fait des études de faisabilité, par exemple. Et que, donc, pour ces gens-là, quand on parle d'études de faisabilité, ça veut dire qu'il y a des fonds qui ont été décaissés, et des engagements qui ont été pris vis-à-vis des banques, et ainsi de suite. Mais par rapport à ça, on va voir plutôt quels sont les points qu'il faut améliorer pour que le contrat demeure, afin que le tort qui a été causé, notamment en termes de gel de gisement, en termes de faux des droits à l'État ou aux entreprises, ne puisse pas demeurer.
Alors, s'il s'agit des contrats de modulation, je crois que les pertes et les bénéfices doivent être partagés de part et d'autre, des partenaires. Donc là, je vois le gouvernement, qui est représenté par la Gétamine, je prends l'exemple,
oui.
Avec ses partenaires. Et si aujourd'hui il faut revoir, comme vous l'avez dit, les contrats signés par Gétamine et cette entreprise qui travaille à la modulation, il y a toujours un principe économique qui dit les actionnaires, les partenaires sont indéfiniment liés dans les pertes tout comme dans les bénéfices. Et le gouvernement est prêt à assumer?
Non. Je crois qu'il va falloir quand même qu'on précise la notion de la modulation. Dans le cas de la modulation, ce qui est prévu dans le code minier d'ailleurs, un contrat de modulation, c'est un contrat dans lequel le titulaire des droits miniers confie le gisement qui lui appartient à un autre pour l'exploiter, à charge pour ce dernier de lui verser un loyer qu'on appelle loyer de la modulation. En ce moment-là, c'est vrai, les droits vis-à-vis de l'État demeurent à charge du titulaire des droits miniers, mais, comment dirais-je, en ce moment-là, ils sont pris en charge par la modulataire. L'État ne se retourne que contre la modulation en cas de défaillance de la modulataire.
Alors, on va terminer par cette curiosité, parce que là, c'est autour de l'Italie, avec Okimo,
oui.
Qui avait signé ses contrats d'amélioration avec d'autres entreprises,
oui.
Mais dernièrement, l'entreprise a signé encore un autre protocole d'accord pour céder certains carrés miniers aux exploitants artisanaux.
Je ne pense pas que ce soit cette entreprise-là qui a signé.
Nous avons fait l'émission ici, l'ADG de l'Okimo nous a confirmé, il y a même le gouverneur qui est allé, qui a fait partie de ces protocoles. D'accord. On a remis certains carrés miniers aux artisans, aux exploitants artisanaux.
La question des exploitants artisanaux dans les concessions minières, ou plutôt dans les périmètres miniers octroyés à des titulaires, c'est une question qui est assez perplexe. Vous savez, avec les guerres qu'on a connues, avec la déliquescence de l'État qu'on a connue et tout ça, il y a eu forcément, et par rapport à la paix sociale aussi, une situation qu'on essaie de gérer. Je pense qu'il était du devoir de l'autorité politique de la province orientale de ne pas ignorer ce fait-là. Il y a des exploitants artisanaux qui sont sur le territoire, ou plutôt sur le périmètre minier de l'Okimo. Fallait-il les chasser tout de suite, ou plutôt il faut voir comment les encadrer pour leur donner une voie de sortie honorable afin de permettre une exploitation industrielle sur les lieux. Parce que, ne l'oublions pas, on n'a pas jusqu'à ce jour un exemple où l'exploitation artisanale a développé un pays. On n'en a pas.
Gabis Matiafou, nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines. Merci d'avoir été de nous et surtout merci d'avoir apporté tout cet éclairage.
C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée.